Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bienvenue et bonjour très sportifs et footballistiques à tous et à vous Francis Laloupo.
Liliane, bonjour. Vous avez revêtu votre maillot 21.
Ça c'est sûr, vous vous en doutez, nous ne pouvons pas échapper à l'actualité mondiale, la Coupe du Monde de football qui a démarré jeudi en Russie, n'est-ce pas?
Absolument, et cette édition ne sera pas consacrée exclusivement au football, rassurez-vous.
Oui, on en parlera, on en parlera quand même dans l'émission, Francis. Il faut encore attendre pour savoir si François Compaoré sera ou non estradé vers le Burkina Faso. Le frère cadet du président burkinabé déchu est soupçonné par son pays d'être impliqué dans l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons. Mais la justice française a demandé au Burkina de fournir d'autres preuves de l'implication de François Compaoré dans cette affaire. Rendez-vous le 3 octobre prochain. Peut-il être le Étienne Tshisekedi qui manque à l'opposition congolaise depuis le décès début février 2017 du Sphinx, l'acquittement par la Cour pénale internationale de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC, suscite tantôt colère, tantôt soulagement, mais surtout espoir chez des Congolais. Certains croient même savoir que Jean-Pierre Bemba a été libéré dans le but de contraindre le président Joseph Kabila à partir, comme l'exige la Constitution, et à faire de Bemba son successeur. 5 fois candidat à organiser la Coupe du Monde de football, 5 fois rejeté. Cette fois, c'est la candidature du trio États-Unis, Canada et Mexique qui a fait barrage à l'ambition du Maroc à organiser le Mondial 2026. Le Royaume, qui espérait avoir toutes les voix africaines, a vu certaines lui échapper au profit de ses adversaires sous la pression et la menace américaine, soutiennent certains experts. Analyse et décryptage dans un instant. Le temps pour vous, Francis Laloupo, de présenter notre plateau.
Absolument, Liliane. Notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone avec nous depuis Berlin, Maître Benewende Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, avocat des familles Norbert Zongo et Thomas Sankara. Maître Sankara, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Laloupo, bonjour chers auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation, cher maître. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Kinshasa, Pascal Moulengua, journaliste correspondant en RDC de Radio Vatican et de l'agence de presse turque Anadolu, collaborateur de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Pascal Moulengua, bonjour.
Bonjour, bonjour confrère et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation, comme de coutume, de notre grand témoin invité, Maître Benewende Stanislas Sankara, titulaire d'un DEA en droit privé et d'une maîtrise en droit option judiciaire, avocat de profession. Vous êtes longtemps défini comme un éternel opposant à l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, président par intérim de la Haute Chambre du Parlement d'août à septembre 2017. Vous êtes le président de l'Union pour la Renaissance, Mouvement Sankariste, l'UNIR MS. Vous êtes l'avocat de la famille du journaliste assassiné Norbert Zongo et de celle de l'ancien président Thomas Sankara. Maître Benewende Stanislas Sankara, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. À vous Liliane à Dakar.
Et on commence, Francis, par le Burkina Faso. François Compaoré répondra-t-il bientôt des soupçons d'implication dans l'assassinat il y a 20 ans du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons? En tout cas, si cela doit se passer, il faudrait forcément qu'il soit estradé vers son pays, le Burkina Faso, qui en a fait la demande. Mais la décision revient à la justice française qui se prononcera le 3 octobre prochain. Précision du correspondant de BBC Afrique à Paris, Nadir Guénad.
La juge de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a demandé aux autorités burkinabées de lui fournir des éléments matériels de nature à prouver l'implication de François Compaoré dans l'assassinat de Norbert Zongo. Elle souhaite également avoir des précisions sur l'application de la peine de prison à perpétuité au Burkina Faso, ainsi que des éléments concernant le mandat d'arrêt émis par la justice burkinabé à l'encontre de François Compaoré. L'avocat de ce dernier, Pierre-Olivier Sûr, est optimiste.
Ces pièces n'existent pas. Le dossier est vide. Faisons tous bien attention que nos adversaires n'aient la tentation de produire des faux, de fabriquer des preuves. Je crains la tentation du faux en écriture.
Pour Antaguissé, l'avocate de l'État burkinabé, si le dossier était vide, la chambre d'instruction aurait tout simplement rejeté la demande d'extradition.
Vous voulez absolument que je vous dise que je suis déçue? Non, parce que les compléments d'information sont régulièrement demandés devant cette chambre, que ce soit avec des États africains, que ce soit avec des États européens, que la chambre de l'instruction souhaite être parfaitement informée pour prendre sa décision, ça ne me paraît pas surprenant.
Nadir Djenna de Paris pour BBC Afrique.
Voilà. Maître Benewende Sankara, vous êtes très impliqué dans ce dossier. Francis le disait en vous présentant tout à l'heure. Autant dire que votre appréciation pourrait être subjective. Et j'ajoute aussi que nous n'avons pas à commenter une décision de justice dans une affaire en cours et qui n'est pas vidée. Mais est-ce que vous pensez tout de même, comme l'avocate de l'État du Burkina dans ce dossier, que la demande de la justice française de nouvelles preuves impliquant Simon Compaoré est tout à fait normal?
D'abord, je dois rectifier pour dire que il ne s'agit nullement de Simon Compaoré.
François.
Qui est le ministre d'État.
Absolument.
Mais François Compaoré.
C'est bien,
voilà,
François.
Ça arrive, hein. Voilà. Donc, je veux aussi regretter d'entrée de jeu les propos très graves de mon confrère Maître Olivier Sûr, qui estime qu'il pourrait y avoir une manipulation, une tentative de fraude par rapport aux éléments qui pourraient être éventuellement versés. Je le dis parce que je l'ai suivi plusieurs fois, je l'ai lu aussi. Je veux simplement rappeler aux auditeurs et à l'Afrique, aux amis de l'Afrique, ce procès-là remonte il y a pratiquement 20 ans. C'est une affaire qui a débuté en 1998, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Il faut aussi retenir pour mémoire que ce dossier qui avait connu un début, un semblant de procédure judiciaire s'est retrouvé bloqué sous Blaise Compaoré.
Oui, en 2006, il avait été classé sans suite par la justice burkinabé.
Tout à fait, tout à fait. Parce que vous avez trouvé des juges qui ont infirmé une ordonnance qui prévoit des poursuites et cela a été confirmé par la Cour d'appel. Et comme vous l'avez souligné, je suis avocat, c'est vrai, mais je pense que la procédure est toute une science. Quand vous les trouvez coincés comme ça, vous êtes obligé de trouver d'autres voies, d'autres issues. Et l'issue que nous, avocats de la famille Norbert Zongo, avions trouvée, c'était d'aller devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Je dis ça parce que l'affaire Bemba devant la Cour pénale internationale m'intéresse aussi en tant que justice supranationale. Donc, en réalité, c'est depuis la fuite de M. Blaise Compaoré en 2014, que la justice burkinabé s'est ressaisie à nouveau, et je précise sur deux fondements. Le premier fondement, c'est l'arrêt qui a été rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Tanzanie. M. Olivier Sy ne peut pas ignorer cela. L'autre fondement, c'est les pièces nouvelles qui ont été retrouvées et qui contredisent la décision du juge d'instruction qui avait infirmé l'ordonnance en 2006. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'une passion inutile, il s'agit d'éléments de fait qui se constatent que la justice française n'est pas obligée de s'en saisir parce qu'on ne lui demande pas, en réalité, de juger M. François Compaoré. On demande à la justice française d'extrader un homme qui fuit sa justice.
D'accord. Excusez-moi, maître, j'insiste sur ma question. Vous avez en partie répondu. Vous dites que en 2015, après la démission forcée du président Compaoré, le dossier donc a été relancé. Et vous soutenez que si ce dossier a été relancé, c'est qu'il y a des éléments de preuve. Est-ce que vous donc vous estimez, vous êtes en train de nous dire que c'est pas normal que la justice française demande d'autres preuves alors même que on ne lui demande pas de juger François Compaoré, mais simplement de l'extrader?
Tout à fait. Je dis simplement, ce qui est demandé à la justice française, c'est de constater, entre la France et le Burkina Faso, est-ce qu'il y a des accords d'extradition? Je dis oui. On avait un obstacle qui était la peine de mort, qui avait même été soulevé par Maître Olivier Sûr. Cette question est réglée par, justement, le nouveau code pénal du Burkina Faso qui a aboli la peine de mort.
Adopté en début du mois par le Parlement.
Oui, mais je précise, contrairement aux allégations de M. Olivier Sûr, que la procédure de révision de notre code pénal au Burkina Faso remonte il y a 5 ans, depuis 2013, que la procédure était en cours. Donc il ne s'agit pas d'une procédure législative qui a été faite parce que tout simplement François Compaoré vient d'être arrêté. C'est sous Blaise Compaoré même que le code pénal aurait pu en réalité être révisé.
Merci.
Donc, je me résume pour dire que la France doit simplement s'en tenir à la requête du Burkina Faso qui demande l'extradition purement et simplement de M. François Compaoré vers la justice burkinabé.
Maître Sankara, quel genre de pièces matérielles supplémentaires pourraient fournir les autorités judiciaires burkinabées pour satisfaire la demande des juges français?
Oui, même par extraordinaire, si la justice française voulait des éléments liés au fond du dossier, c'est-à-dire à l'infraction, c'est clair et net que le juge d'instruction burkinabé va communiquer son dossier. Puisque au moment où moi je vous parle, au Burkina Faso, il y a d'autres personnes qui sont inculpées. Il y a des pièces qui sont versées au dossier. Il y a des éléments matériels qui ont été relevés. Tout cela peut être versé, bien sûr, dans le strict respect du secret de l'instruction. Mmh. Je le précise.
Mais Maître Sankara, est-ce que les propos tenus depuis quelque temps par Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat de François Compaoré, correspondent, je dirais, au discours habituel d'un avocat, puisque vous êtes avocat vous-même, quand il dit à propos de l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso, quand il dit ceci, je le cite, « Je suis satisfait, dit-il, de même que tous les partisans des libertés publiques doivent se satisfaire de cette nouvelle qu'il faut saluer au Burkina Faso. Chacun comprendra qu'à nouveau, les libertés publiques progressent grâce à la famille Compaoré, puisqu'à l'évidence, cette mesure, on la doit à François Compaoré au procès qui lui est fait actuellement en France. » Est-ce que ce genre de propos, je dirais, cadre avec le métier d'avocat? Est-ce que n'outrepasse pas, je dirais, ce qui est convenable quand on est un avocat et qu'on s'adresse comme ça à un public?
Oui, c'est bien dommage qu'il fût bâtonnier de Paris. Je pèse mes mots. Maître Olivier Sûr, quand il venait à Ouagadougou, il était véhiculé en fond rouge. Il était dans une voiture fond rouge, c'est-à-dire véhiculé par l'État du Burkina Faso, logé par l'État du Burkina Faso sous Blaise Compaoré.
Excusez-moi, donc, maître, monsieur, sur le temps par là, on ne peut pas... notre débat ne porte pas il ne s'agit pas de faire le procès de monsieur Sûr, puisqu'il n'est pas là pour se défendre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à la question de Francis?
Non, je vais répondre, mais je pèse mes mots et monsieur Sûr peut disposer de son droit de réponse. Il peut le faire, il vient régulièrement au Burkina Faso, il est constitué aujourd'hui devant les tribunaux du Burkina Faso pour défendre notre dignité de M. Blaise Compaoré. Donc, en réalité, ce n'est pas de l'accusation contre M. Sûr, mais je comprends votre
sens. Ma question portait sur son style.
Son style verbal.
Monsieur Laloupou, je veux dire que M. Olivier Sûr, non seulement outrepasse la déontologie de la profession d'avocat, c'est pourquoi je dis, en tant que bâtonnier, il n'aurait pas dû, parce qu'il doit donner l'exemple. Deuxièmement, je l'ai lu immédiatement après le 13 juin, quand le délibéré a été reporté au 3 octobre, il a fait un commentaire d'une décision qui n'a rien à voir avec l'arrêt a été signé, que moi j'ai lu. Donc, je veux aujourd'hui dire que ces déclarations sont des déclarations plutôt politiques que juridiques. Donc, il prend une position plutôt partisane, subjective et personnelle, parce que certainement, il a des amitiés fortes avec monsieur, bien sûr, Blaise Compaoré. Oui. Et François Compaoré.
Monsieur Sûr, donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire, si je reviens à la question des documents fournis et demandés par la justice française, vous êtes en train de dire que ces documents existent et qu'ils seront prêts à être présentés à la justice française avant la prochaine audience fixée au 3 octobre ?
La justice française, notamment la chambre de contrôle, a renvoyé pour information complémentaire. Je vous dis que le dossier qui est au niveau de Ouagadougou, au Burkina Faso, qui est ouvert devant un juge d'instruction qui connaît d'une instruction sérieuse, il y a des éléments dedans. Maintenant, est-ce que le juge d'instruction du Burkina Faso va communiquer son entier dossier à la France? Tout cela relève des accords de coopération judiciaire. C'est ce que je viens de dire.
Est-ce qu'il a tenu de le faire?
Oui. Monsieur Laloupou, c'est ce que je vous dis. Les accords de coopération judiciaire qui existent désormais entre le Burkina Faso et la France, il est permis de le faire.
D'accord. On va peut-être écouter notre confrère Pascal Moulenga sur ce renvoi de la décision par la justice française de l'extradition de François Compaoré. Pascal ?
Oui, cher confrère. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir dans ce dossier de François Compaoré, c'est qu'il y a d'abord eu beaucoup de rebondissements depuis 1998. Et donc, je pense que l'assassinat d'un journaliste ne doit pas rester impuni et c'est tout ce que voudrait faire éclater la justice burkinabé. C'est d'abord une démarche à encourager. Alors, il faut alors voir la qualité de la personne poursuivie. François Compaoré, qui est le petit frère de Blaise Compaoré, ce que la justice française demande, et les États africains devaient quand même s'apaiser sur ça, la France ne veut pas extrader une personne soupçonnée sans avoir d'éléments de preuve palpables. Et c'est tout ce que la France demande à la justice burkinabé. J'estime, tout comme le dit aussi la défense, que le dossier est vide. Il appartient alors à Ouagadougou de prouver que le dossier n'est pas vide et de transmettre ses preuves matérielles le plus vite possible à la justice française. On ne peut pas, comme ça s'est fait dans nos États africains, on extrade quelqu'un sans preuve, sans quoi, simplement sous l'effet d'un coup de téléphone. Et cela doit cesser, c'est ce que fait la France.
Mais est-ce quand même en présentant ce dossier, la justice burkinabé a peut-être la garantie que la décision de celle française va changer? Puisqu'on écoute déjà l'avocat de François Compaoré dire que mettre en garde contre de faux documents, est-ce que même si ces preuves sont présentées, elles ne risquent pas d'être qualifiées de faux par l'avocat ou la partie de François Compaoré?
En fait, c'est l'autre face de ces procès, parce que déjà, quand on prend les régimes de Ouagadougou aujourd'hui, c'est un régime qui pourrait ou n'est pas joué à la purge, et après la chute de Blaise Compaoré. C'est aussi l'autre face de ces procès. N'est-ce pas un procès politique? C'est aussi un argument qui peut présenter la défense. On le voit aujourd'hui dans nos États, la fabrication des preuves, c'est fait, c'est trop courant. Alors, il appartiendra alors à la justice française d'écouter Ouagadougou et d'écouter aussi la défense de M. François Compaoré pour vérifier si réellement ces preuves sont vraies. Parce que il faut bien voir que dans ces procès, il y a à boire et à manger. D'un côté, le président Kabore a demandé à la justice d'appuyer toutes les affaires sensibles, dont cette affaire de notre confrère Norbert Zongo. Justice doit être rendue, mais les règles du jeu doivent être respectées. Et donc, c'est un peu ça. Les preuves, si Ouagadougou en a, je pense que Ouagadougou aurait déjà brandi ses preuves, mais déjà deux ou trois mois après, on attend encore au mois d'octobre, si ses preuves seront déjà entre les mains de Paris.
Merci beaucoup.
Ce ne sont pas des preuves en tant que telles qui sont demandées. D'ailleurs, il faut préciser, ce sont des pièces, évidemment, qui alimentent la procédure, précisément parce que tout accusé, évidemment, est présumé innocent jusqu'à l'énoncé d'un verdict. On marque une pause tout de suite, on revient juste après.
Le débat Africa BBC.
Avec un grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Berlin, Maître Benewende Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, et notre confrère invité depuis Kinshasa au téléphone, Pascal Moulengua, journaliste, correspondant en RDC de Radio Vatican, de l'agence de presse turque Anadolu et collaborateur de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Maître Bene Wende Stanislas Sankara. Alors, pour votre confrère, Maître Pierre-Olivier Sûr, avocat de François Compaoré, si le Burkina Faso ne parvient pas à fournir donc des pièces probantes à la Chambre d'instruction, il n'y aura pas d'extradition, dit-il. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'un refus d'extradition de François Compaoré? Est-ce que, voilà, quel pourrait être, par exemple, l'impact d'une non-extradition de François Compaoré sur les autres procédures en cours au Burkina Faso impliquant d'autres personnalités politiques?
D'abord, il faut également faire observer que M. François Compaoré et son frère Blaise Compaoré ont entre-temps changé de nationalité,
oui,
comme par hasard.
Ils sont devenus ivoiriens.
Alors, voilà, ils sont devenus ivoiriens et on ne les poursuit pas pour ça, on les poursuit pour des faits antérieurs.
Oui.
Deuxièmement, je dois aussi soutenir que l'extradition, acceptée ou refusée, n'est pas un frein à la procédure. M. François Compaoré peut choisir de ne pas répondre devant la justice burkinabé. La justice burkinabé va aviser et continuer son dossier. Puisque je vous dis qu'il n'est pas le seul élément poursuivi dans le dossier. Et même s'il était d'ailleurs le seul inculpé, la justice peut passer outre s'il choisit d'être jugé par contumace, par exemple. Donc, c'est à lui de faire face en toute responsabilité à sa justice, à la justice de son pays. S'il estime, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est innocent, la présomption d'innocence est garantie. Ceux qui suivent l'actualité au Burkina Faso savent que désormais, la magistrature burkinabé est plus qu'indépendante, les magistrats sont libres, et il peut être blanchi. Et ça sera son honneur. Mais s'il y a des charges en revanche, qui pèse sur lui, il va devoir faire face à ces charges-là et se défendre aussi de façon impartiale avec ses avocats, dont Maître Olivier Sûr, devant des juridictions, en tout cas, qui sont compétentes et qui vont rendre une décision en droit et en toute équité. Moi, j'ai cette conviction parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire du Burkina Faso savent qu'il y a deux piliers fondamentaux dans notre démocratie. C'est la justice et c'est la société civile. Tout le monde y veille. Les droits de la défense sont garantis. Donc, il ne craint absolument rien, M. François Compaoré.
Mais sauf que Maître Bene Wende Sankara, dans le cadre, par exemple, de l'affaire des présumés putschistes de 2015, je veux parler de, du général Djibril Diendéré. Par exemple, ils estiment que la justice n'est pas si équitable que vous le dites.
Ah si, madame, vous avez remarqué qu'en fait, ce sont les accusés eux-mêmes qui ont grippé la machine par justement le jeu de la constitution et de la déconstitution des avocats. Le bâtonnier a dû même commettre d'office les avocats pour les défendre. Donc, ce n'est pas en tant que tel la juridiction qui pose problème. Par contre, ce qui est reproché dans ce procès, c'est l'existence même du tribunal militaire à notre arsenal juridique. Il existe aussi dans d'autres pays. Donc, au regard de tout cela, en entendant, comme on le dit, c'est notre ordonnancement juridique, il y aura certainement la 5e République si la nouvelle constitution est votée. Mais pour le moment, le tribunal militaire existe et a même rendu, en tout cas, des décisions qui ont été saluées par notre peuple.
Maître Bene Wende Sankara, si on revient aussi au dossier de M. François Compaoré, on observe qu'il y a eu aussi une prise de position claire de la part des journalistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier cela de pression sur la justice française, de voir des journalistes qui prennent des déclarations pour exiger l'extradition de Blaise François Compaoré? Il faut bien que j'y arrive. François Compaoré.
Non, je vous comprends. Je vous comprends. Moi, je ne suis pas journaliste. Mais si vous référez au mobile de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, selon la commission d'enquête indépendante qui était internationale avec l'implication de Reporters sans frontières, Il est dit que Norbert Zongo a été tué tout simplement parce qu'il était un journaliste d'investigation engagé et que le mobile du crime était politique.
Mais ça, on connaît le mobile du crime, mais on n'a pas non plus dit que la personne dont on demande l'extradition est responsable ou impliquée dans ce crime. Je veux dire, voir les journalistes qui demandent l'extradition, c'est une prise de parti nette dans ce dossier. Cela peut être gênant, vous pensez pas?
Oui, les journalistes qui ont dit cela ont fondé leur déclaration sur des faits. À savoir que depuis l'affaire David Ouédraogo, c'est-à-dire le chauffeur de M. François Compaoré, qui a été brûlé, vif, tué, et qui a aussi connu un épilogue très long, eh bien, M. François Compaoré, à l'époque, s'en est lavé les mains. Effectivement, il n'a pas été inculpé. Ça veut dire que même devant le tribunal militaire pour des faits aussi graves, il n'avait pas été inquiété. Par contre, dans l'affaire Norbert Zongo, et si on remonte justement à 2006, avec l'ordonnance d'inculpation qui a été purement et simplement infirmée, à la faveur de l'insurrection, il s'est révélé sur la place publique que M. François Compaoré a émis un certain nombre même de chèques.
Merci.
Et que...
Merci maître, je pense que... Oui, on va attendre le procès pour que vous présentiez tous ces arguments. On n'en est pas encore là. Francis, si vous permettez, on va passer au prochain sujet.
Non, j'avais une dernière question à poser à maître Sankara sur cette question, parce qu'il y a une sorte de confusion comme ça. Depuis quelques jours, maître Sankara, on a l'impression que, en fait, le procès de François Compaoré se déroule actuellement à Paris, alors que ce qui est demandé à la justice française, c'est simplement de se prononcer sur l'extradition ou non de François Compaoré. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de cette exigence de la chambre d'accusation française qui demande aux autorités burkinabées l'acte de réouverture de l'information judiciaire au Burkina, ainsi que le régime d'amendement des peines dans le cas où François Compaoré est coprès de la prison à perpétuité? Est-ce que la justice française est fondée à demander ce genre de, comment dire, à réclamer ce genre de, comment dire, de renseignements aux autorités judiciaires burkinabées?
En une minute, s'il vous plaît.
Je dis tout de suite non. Ce n'est pas ce qu'on a demandé à la justice française. On lui a simplement demandé d'examiner une requête d'extradition conformément aux accords et conventions d'extradition qui existent entre la France et le Burkina Faso. On ne lui demande pas de juger M. François Compaoré devant des juridictions françaises.
Merci.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec notre grand témoin, maître Bene Wende Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et notre confrère depuis Kinshasa, invité Pascal Moulingua. Nous allons justement parler de la RDC à présent. Autre actualité judiciaire, le dossier Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale le 8 juin dernier, puis mis en liberté provisoire ce jeudi, après 10 années passées dans la prison de la Haye. Ancien homme d'affaires devenu chef de rébellion à la fin des années 90, dans le contexte d'un gigantesque conflit désigné par certains à l'époque comme la Première Guerre mondiale africaine, Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre octobre 2002 et mars 2003 en Centrafrique. Après sa remise en liberté, Jean-Pierre Bemba a choisi de résider auprès de sa famille en Belgique en attendant la conclusion d'une autre affaire qui l'oppose à la CPI, un procès pour subornation de témoins. Alors que certains estiment que cet acquittement surprise révèle les failles de la Cour pénale internationale, certains se prennent à espérer en RDC le retour sur la scène politique de Jean-Pierre Bemba, voire sa participation à la prochaine élection présidentielle à la tête de son parti, le Mouvement de Libération du Congo, le MLC. Avant de nous tourner vers notre confrère Pascal Moulingua pour qu'il nous dise un peu quels sont les sentiments au sein de la population au lendemain de cet acquittement de Jean-Pierre Bemba, maître Bene Wende Sankara, comment avez-vous réagi, vous, à l'annonce de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba? Vous avez été surpris ou pas?
Ben, quelque peu surpris quand même, pour être honnête avec moi-même, parce que tout à l'heure, je disais que dans l'affaire Norbert Zongo, nous avons préféré aller devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que quand même, moi, je suis de ceux-là qui pensent que l'Afrique, en tout cas de ce siècle-là, devrait pouvoir se doter de tous les organes qui fédère et qui tend vers son unité. Ensuite, j'ai noté que 10 ans après, ensuite avec une cascade d'inculpations dans un contexte qui est celui du Congo, eh bien, une liberté provisoire fut-elle de M. Bemba, pour moi, c'était quand même une surprise, mais aussi un grand soulagement. Soulagement en ce sens que je n'ai jamais, moi personnellement, eu confiance à la Cour pénale internationale quand on se réfère aux origines du traité de Rome. Et je me suis toujours demandé comment se fait-il que ce soit pour la plupart des Africains comme Laurent Gbagbo, comme Charles Taylor, la Yougoslavie qui a été désossée et dont l'ancien président en a payé les frais devant le tribunal pénal international, etc., etc. Est-ce que la justice ne peut pas en Afrique se réorganiser autrement en fonction de nous, notre démocratie africaine. Donc, c'est autant de questions qui ont trotté dans ma tête, mais je me suis dit, eh bien, si c'est un soulagement pour le peuple congolais, eh bien, c'est une opportunité que les Congolais se réconcilient avec eux-mêmes et pour relancer leur démocratie de façon inclusive et participative, parce que la jeunesse congolaise en souffre. Tout dernièrement, j'ai vu, en tout cas sur les réseaux sociaux, comment un activiste a été brûlé vif, et ça m'a vraiment...
dans l'incendie de sa maison.
C'est un psychotrame.
Merci.
Tout à fait. Donc, il faut que ça s'arrête.
Soulagement pour certains en RDC, mais affliction quand même des victimes qui ne savent plus désormais à quel saint se vouer. Mais on va se tourner vers notre confrère Pascal Namulengwa qui est à Kinshasa. Pascal, quels sont les sentiments exprimés au sein de l'opinion au lendemain de l'annonce de l'acquittement, puis de la libération de Jean-Pierre Bemba?
Oui, chers confrères, chers auditeurs, donc après l'acquittement, surtout l'acquittement, ça a été une décision surprise et nous a même surpris nous-mêmes, mais en tant que journalistes, on ne s'attendait pas vraiment que Bemba serait acquitté. On pensait que le verdict de la première instance sera simplement validé. Et donc à Kinshasa, Bemba, il est chéri ici, à Kinshasa, il avait raflé plus de 70% des voix en 2006, donc Bemba garde encore son électorat ici comme un stade. Son acquittement a été accueilli comme si c'était la résurrection de Ken Tshisekedi. Parce qu'il faut dire que Kinshasa, en 2006, vit la résistance de Ken Tshisekedi qui ne voulait pas participer aux élections. Kinshasa n'avait pas de choix que de voter Bemba. En 2011, Bemba, le chairman, comme on l'appelle, a été coincé dans les cellules à la haie, donc Kinshasa a opté de voter pour Tshisekedi. Et donc ici, c'est comme si la donne a changé, parce que on a eu même à interroger les habitants, on l'a même suivi dans les reportages de votre correspondant ici à Kinshasa, et que les gens sont restés perplexes. C'est comme si les calculs au sein de l'opposition ont changé. On se demande si on va voter qui, et voilà, c'est un peu ça le sentiment ici. Donc c'est un soulagement qui est au moins général. Et surtout dans son fief, dans le nord-ouest, dans la province de l'Équateur, où se vit actuellement l'épidémie d'Ebola, il y a eu trop de mouvements de liesse, et donc la nouvelle a été accueillie avec joie.
Liliane ?
Voilà. Pascal, donc vous êtes en train de nous dire que la popularité qu'on prête à Jean-Pierre Bemba est réelle. Est-ce que la prison l'a rendu plus populaire qu'avant? Et aussi, l'opposition était un peu orpheline depuis la disparition de son leader Étienne Tshisekedi. Vous venez de dire que la libération de Jean-Pierre Bemba était une sorte de résurrection de Tshisekedi. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos qu'il a le profil pour être la figure morale de l'opposition? Autrement dit, a-t-il la légitimité pour être Étienne Tshisekedi?
Oui, mais en fait, avant de parler de ça, il faut voir que Bemba, son parti, le MLC, déjà désespéré trop. On a même vu que son parti voulait s'allier à d'autres partis pour la présidentielle. Donc les partis en soi n'espéraient même pas qu'il allait être acquitté. Et donc l'acquittement et la libération déjà changent la donne. En fait, Jean-Pierre Bemba, son profil en soi, on ne va pas revenir à son passé rebelle. Dans ces pays, la plupart des dirigeants ont été des rebelles. commençant par le président Joseph Kabila et la plupart de ses anciens vice-présidents. Et donc, le profil moral aujourd'hui, c'est que Jean-Pierre Bemba au sein de l'opposition doit faire face à une nouvelle génération. Quand on prend celui qui a succédé à Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, il est encore venant dans les rangs. Quand on prend Vital Kamerhe aussi, qui a passé, en tout cas, des bonnes années aux côtés de Joseph Kabila, mais après l'échec de 2011, il semble trop se réserver. Et quand on prend maintenant la figure de Moïse Katumbi, qui est coincé en exil à cause de ce débat judiciaire, donc aujourd'hui, on prend Jean-Pierre Bemba comme si c'est celui qui peut vraiment incarner la tête de l'opposition pour le 23 décembre. Mais malheureusement, si les 4 juillet, la Cour parvenait à valider les verdicts de première instance, il est condamné de subornation de témoins, donc de corruption, et il sera frappé d'inéligibilité. C'est un peu ça.
D'accord, mais
Pascal, vous êtes en train de nous dire au fond que les Congolais seraient prêts à remplacer à la tête de la RDC un chef rebelle, un ancien chef rebelle, par un autre ancien chef rebelle?
Les Congolais ont un argument qui n'est plus dépassé. Un chef rebelle, il faut voir le passé. C'est presque tout le monde qui a été rebelle dans ces pays, la plupart des gens qui nous gèrent. Aujourd'hui, force malheureusement que même certains dans l'opposition ont fait partie de ces rébellions. Il faut voir même...
Tu sais que dit n'a jamais été un chef rebelle, par exemple.
Voilà, c'est un peu ça le caractère d'inamovibilité de Ken Tshisekedi. Donc il n'avait jamais touché les armes, c'est un peu ce qui va le différencier. Mais si on veut étudier la science politique aujourd'hui dans les pays, il n'y a aucun leader vraiment qui a l'opinion à convaincre les 80 millions de Congolais, si ce n'est pas Moïse Katumbi, mais malheureusement qui n'était pas revenu encore au pays. Donc on trouve que Jean-Pierre Bemba, cet électorat qu'il a voté à 42-44%, en 2006, cet électorat peut encore opter pour le choix de Bemba en 2018. Et surtout que l'opposition aujourd'hui est divisée, la grande bataille serait de trouver un candidat unique.
On va demander à M. Sankara. M. Sankara, selon vous, est-ce que Jean-Pierre Bemba pourrait aujourd'hui incarner en RDC un projet d'avenir? M. Sankara.
Maître, vous êtes là?
Oui,
je vous demandais si, selon vous, Jean-Pierre Bemba pourrait aujourd'hui incarner pour la RDC un projet d'avenir, compte tenu de son parcours.
La RDC a besoin d'un processus politique. Il faut que le peuple congolais accepte un compromis historique vers un homme qui peut fédérer tous les Congolais autour de son expérience politique, autour de son engagement à l'unité nationale et autour de la démocratie. Et je pense que M. Jean-Pierre Bemba, il a été à un moment donné porteur d'espoir pour une fraction du peuple congolais, qui aujourd'hui, justement, au regard du changement souhaité de par les différentes réformes politiques, moi, je crois qu'il faut laisser simplement aux Congolais de choisir de façon libre la personne qui peut incarner cette unité nationale. Je crois, en tant qu'Africain, que cela est possible. Ne regardons plus dans le rétroviseur, mais regardons plutôt vers l'avenir. Et la jeunesse congolaise, aujourd'hui, s'est suffisamment battue pour espérer une véritable alternance alternative. Donc, je n'ai pas... moi, à juger de la possibilité ou de la capacité de M. Jean-Pierre Bemba, mais je pense qu'il peut être un élément de l'unité nationale à l'image de l'Afrique du Sud.
Maître, une question rapide. C'est vrai que lorsqu'il a été acquitté, certains Congolais voient en lui le successeur de Joseph Kabila. Mais je voudrais qu'on s'attarde plutôt une minute encore sur son acquittement. Voir en première instance, il avait été condamné à 18 ans de prison, acquitté en appel par la même juridiction. Vous qui êtes avocat, Maître Sankara, de telles décisions sont-elles habituelles? Surtout pour les crimes de cette nature. Je rappelle que Bemba a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique.
Oui, je ne peux pas trop spéculer sur les motifs du juge de la Cour pénale internationale. Mais je sais qu'il y a eu au moins deux réserves de la part des juges de cette même cour.
Non, je veux dire, de mémoire d'avocat, est-ce que ce sont, on assiste habituellement à ce type de décision?
Oui, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés de juridiction, puisqu'on donne toujours la chance au second degré d'annuler la décision qui aurait été rendue en première instance. Donc ça peut arriver, et ça c'est notre dada de tous les jours. Mais devant la Cour pénale internationale, je pense que les crimes sont suffisamment graves, abominables, la peine a été très lourde, qu'aujourd'hui un acquittement, ça laisse libre cours à beaucoup de spéculations.
Spéculation, justement. Alors quand on entend la procureure, Mme Bensouda, expliquer finalement la procédure qui a mené à cet acquittement, on comprend que voilà, c'est une forme de jurisprudence, parce que en fait le donneur d'ordre, c'est ce qu'a été Jean-Pierre Bemba, le donneur d'ordre n'est pas responsable dès lors qu'il n'a pas lui-même participé à la commission des actes incriminés. Est-ce qu'on peut parler désormais d'une jurisprudence Bemba qui pourrait éventuellement bénéficier à d'autres prévenus poursuivis actuellement par la CPI? Vous voyez, suivez mon regard.
Mais moi je pense que c'est une bonne jurisprudence. Et c'est aussi une façon d'inscrire son nom dans l'histoire juridique.
C'est-à-dire que celui qui donne l'ordre de tuer, de piller, de violer n'est pas responsable dès lors qu'il n'a pas participé lui-même à ces crimes.
Je suppose que vous voulez évoquer le cas de Laurent Gbagbo.
Vous avez bien suivi mon regard,
Liliane.
Oui, c'est le commanditaire. Oui, c'est le commanditaire. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un type de commission d'infraction qui n'a rien à voir avec les infractions pratiques comme par exemple l'attentat ou le viol ou le vol.
D'accord.
Voilà, donc c'est la complexité des infractions dont on reproche à M. Jean-Pierre Bemba qui fait peut-être argumenter certains magistrats de la Cour pénale pour dire qu'il peut être plus ou moins absous. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable.
Responsable, mais pas coupable, mais c'est ça?
Merci.
Voilà. Voilà, il peut être responsable, mais il n'est pas coupable.
Merci beaucoup. On va parler à présent du cinquième échec
tout autre chose.
Du Maroc a organisé, bien sûr, Francis, une Coupe du monde de football. Est-ce que cela va créer une tension diplomatique avec certains pays africains? Les autorités du Royaume sont plus que remontées contre le vote de 11 pays du continent qui ont préféré donner leur voix au Canada, États-Unis et Mexique. Et le Mexique qui vont donc organiser le Mondial 2026. Le Maroc a perdu par 134 voix contre 65. Mais promet de relancer la candidature en 2030. Maître Bene Wende Sankara, le Royaume était-il en droit, selon vous, d'attendre un vote unanime des Africains et pourquoi? Et ce, malgré la question sahraoui qui divise, par exemple, de plus en plus à l'Union africaine?
Vous avez touché le nœud du problème. Tout à l'heure, j'étais dans un débat où j'ai dit que depuis que Kwame Nkrumah a indiqué la voie aux Africains, on a l'impression de nous accommoder de cet adage qui dit que le doigt indique la lune et l'imbécile regarde le doigt. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains prennent conscience que nous n'avons aucune solution de nous développer, d'aller de l'avant, dans notre désunion, dans notre guerre politique.
Donc vous comprenez la colère et la frustration des Marocains?
Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que le problème maghrébin, le problème du Maroc, le problème souvent des pays arabes, c'est de vouloir à un moment donné dire même qu'ils ne sont pas africains. Ça pose un problème que nous devons régler entre Africains avant justement d'aller à la conquête de notre leadership, à la conquête des espaces économiques et commerciaux vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis. Tant qu'il n'y aura pas cela, eh bien, on va toujours, en tout cas pour nous, pays africains, assister à ces divisions qui nous mettent en arrière. Et le Maroc, justement, du fait du conflit relatif au Sahara occidental, bien sûr, n'a pas que des amis.
De toute façon,
c'est la bonne preuve
Pascal,
que soit absolu ou est voté contre.
Pascal, hein, de toute façon, les 11 voix africaines n'auraient rien changé, puisque le Maroc a eu 65, plus les 11 voix africaines, il aurait eu 71 voix contre. Voilà, il aurait eu devant le trio États-Unis, Mexique et Canada. Pascal ?
En fait, ce qu'aussi il faudrait retenir de cette élection est que. J'ai entendu maître parler de l'appui continental avant de se lancer dans une telle démarche. Donc, ce que la FIFA a demandé, en fait, ce n'était pas grave. Mais on a trouvé que parmi les 3 villes marocaines proposées, notamment la ville d'Ouazzaré, Nador et de Jadida, ces villes n'ont pas rempli des critères nécessaires pour qu'une coupe du monde soit organisée dans les pays. Je pense que le Maroc, une cinquième fois, vous soumettez votre candidature et puis qu'elle est rejetée, il faut revenir en arrière et travailler du point de vue diplomatique. C'est vrai, les 11 voix n'auraient pas, dont les 11 votes n'auraient pas changé la donne, mais quand même, c'est surprenant, conseil de la FIFA, que vous trouvez que le Maroc présente sa candidature, mais qu'il y a certains pays africains qui ne soutiennent pas le Maroc. C'est tout à fait inacceptable et comprenez aussi le choix de la FIFA aussi qui a opté que la coupe, que le championnat soit organisé dans les 3 pays aussi. Un championnat organisé dans 3 pays, il faut voir qu'il y a trop d'inconvénients. C'est là que le maître s'est justement interrogé. Est-ce qu'il n'y a pas de calcul aussi diplomatique dans ça? Mais comment est-ce que vous allez organiser une coupe du monde dans 3 pays? Il y a trop de désavantages notamment. Donc, pour des joueurs, d'abord, ça doit être trop fatigant. Et c'est trop contraignant et c'est cher. Contrairement si la coupe aurait été peut-être organisée au Maroc.
Dans un seul pays. Merci. Francis ?
Non, mais je vais poser une question rapide à Maître Benemende Sankara, parce que le temps passe très vite. Maître, je n'ai pas tout à fait compris tout à l'heure si vous déploriez ou si vous justifiez tout à l'heure l'absence d'unanimité des Africains en faveur du Maroc. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce, pour bien comprendre, est-ce que vous auriez voté pour le Maroc? Vous avez été en situation?
Oui, moi, j'aurais voté pour le Maroc.
Bon, je comprends mieux, alors, votre démonstration.
Avec réserve.
C'est un pays africain.
Bon, c'est beaucoup plus clair. Très bien.
J'aurais soutenu tout pays africain qui veut organiser la Coupe du Monde.
Est-ce qu'on peut envisager que le Maroc, peut-être pour 2030, essaie de s'associer avec un autre pays? Je ne veux pas parler, évidemment, de l'Afrique du Sud, qui a déjà organisé au regard de leurs relations.
Oui, mais moi, je pense que le Maroc doit prendre du recul, tout comme l'Afrique du Sud, prendre du recul et impliquer tous les États africains. Parce que moi, je crois que c'est plutôt un combat africain. Je ne vois pas que ce soit un combat stricto sensu marocain ou stricto sensu sud-africain. Pour moi, l'Afrique, je reste dans cette logique, doit rester unie. Et moi, je me réclame de l'école de Kwame Nkrumah.
Très bien.
Unie et ensuite, on règle les querelles internes. Francis, on va écouter les messages.
Oui, mais il faut qu'on les surpasse.
Alors, on va proposer à Maître Sankara et à Pascal Moulengwa de découvrir avec nous les messages de nos auditeurs sur Internet. Messages recueillis et livrés à présent par Sandra Bassabam.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Et cette semaine, c'est avec Richard Mbouet-Kadina, Francis.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Faso, il n'y a jamais de fumée sans feu, pense Pancras Levaux. Selon notre fidèle auditeur de Cotonou, si François Compaoré n'a rien à voir avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, alors il ne devrait pas craindre de se présenter devant la justice de son pays. Pour Mephis Kiti, cet acharnement judiciaire démontre à suffisance toute l'envie de l'État burkinabé à connaître toute la vérité sur le meurtre de Norbert Zongo et du chauffeur de François Compaoré. Et à Abdraman Bakoun Koulibaly de s'opposer à Mephis Kiti, car pour notre internaute de Ouagadougou, l'extradition de François Compaoré est une farce qui n'intéresse plus la jeunesse. Sur la République démocratique du Congo, pour Mackenzie Seifa le talentueux, la décision d'acquitter Jean-Pierre Bemba est purement politique. Car selon lui, la Cour pénale internationale voudrait ainsi blanchir son image auprès de l'opinion publique africaine. Et selon Diarra Kamnoum, après des enquêtes menées sur le terrain, Jean-Pierre Bemba, après 18 ans de prison, mérite d'être en liberté. Et enfin le Maroc, pour Charles Bazima, l'échec du royaume chérifien est la preuve par 9 que l'Afrique est divisée. Vincent Sourounou, de sa part, s'interroge si après 5 échecs, le Maroc parviendra à organiser la Coupe du Monde en 2030. Merci à Kofi, Romy et Idrissa Maïga qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Bon week-end de l'Aïd El Filtre et portez-vous bien.
Ben, oui. Merci à Richard.
Merci à Richard, à qui je demande pardon d'ailleurs, parce que j'avais dit que c'était Sandra Bassabam. Mais les deux travaillent en tandem, il faut le préciser aux auditeurs quand même.
Tout à fait. Et bonne fête à nos auditeurs musulmans, Francis et auditrices musulmanes. Oui. On va laisser notre invité conclure.
Absolument. Maître Benewende Stanislas Tanksanka, vous pouvez nous mettre une conclusion générale sur ces messages que vous avez entendus et sur l'ensemble du sommaire de cette édition.
Comme conclusion générale, il faut simplement se féliciter de l'amélioration de la justice internationale et partant de la justice dans nos différents pays. Et simplement regretter que depuis les indépendances, l'Afrique soit toujours à la traîne en quête d'une unité introuvable. Et espérer que la prochaine Coupe mondiale se jouera en tout cas dans un pays africain. Et pour le Congo, je pense que les Congolais, plus que jamais, devraient en tout cas se donner la main de l'unité, aplanir les contradictions et donner l'exemple d'une réconciliation nationale réussie qui doit être le socle d'une alternance crédible. Et je pense que le sujet avait beaucoup d'intérêt parce que l'extradition de M. François Compaoré, que la France accède ou n'accède pas, ne va pas arrêter la procédure judiciaire enclenchée au Burkina Faso. Mais la France est par ailleurs appelée à jouer quatre manches, toute sa crédibilité, et justement dans cette affaire, pour ne pas donner l'impression de couvrir des criminels.
Donc, présumé, présumé.
À tous les auditeurs et à tous les auditeurs.
Merci, présumé.
Les criminels présumés.
Merci, Maître Benewende Stanislas Sankara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premier vice-président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Vous étiez notre grand témoin dans cette édition. Merci à notre confrère Pascal Moulengoua, journaliste, correspondant en RDC de Radio Vatican et de l'agence de presse turque Anadolu et collaborateur de l'hebdomadaire Jeune Afrique. L'émission a été réalisée à Dakar par Noël Akapo. Magie technique assurée à Paris par Valentin Blanc. Chargé de production, on va citer le tandem peut-être, Sandra Bassabam et Richard Thierry Mboué Kidjina. Vous pouvez réécouter cette émission bien sûr en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique. Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à vous et à nos auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup Francis. Week-end très sportif après l'Égypte et le Maroc. Ce sera Nigeria-Croatie samedi et mardi prochain, le Sénégal sera contre la Pologne. Francis, vous regarderez le match, j'espère.
Ben, oui, bien sûr.
Et puis on en reparlera. Peut-être le week-end prochain. Merci à vous. Au revoir, bon week-end.
Au revoir.